Bienvenue sur Horizon. Quand un bouleversement offre de nouveaux possibles. Une émission présentée par Justine et RL, un mardi par mois, de 20h à 21h, sur le 103 FM de Radio Campus Angers. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Je suis RL et je suis en compagnie de Justine qui se trouve à la régie.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous accueillons Juliana.
Hello.
Elle a 21 ans et elle est originaire d'Ukraine. Juliana a déjà un parcours très riche et diversifié. Elle va nous raconter comment différentes expériences qu'elle a vécues l'ont façonnée.
Donc là, vous allez entendre des lignes aussi géniales que vous avez jamais lues dans aucun CV de votre vie. Juliana Dmitrieva, 21 ans. Yankho, ukrainienne, étudiante aux Beaux-Arts, enfant des guerres, de divorce. Mon sang prolétaire m'efforce de taffer comme une folle et mes origines des favelas ukrainiennes font preuve de ma résilience.
Est-ce que tu te souviens de l'enfant que tu étais, Juliana?
J'étais un enfant assez dynamique, je pense, bien hyperactif. Et donc, vu que ma mère était seule, personne n'a trop fait importance, elle était assez occupée tout le temps. Dans les journées, moi j'étais un petit singe qui rigolait, qui s'amusait tout seul. J'avais plein de joies de vivre. Donc ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit impossible, je pense aussi. Le fait que j'étais obligée un peu de m'amuser, de un peu, je sais pas, ouvrir un peu mon créativité, chercher quoi faire, quoi m'occuper tout le temps. Donc voilà. Et quand j'étais gamine, on a changé beaucoup d'endroits parce que ma mère qui était divorcée, elle a déménagé pas mal des fois déjà à Odessa, au sud de l'Ukraine, où je suis née. Et ensuite, en plus, quand j'étais adolescente, ma sœur voulait faire des études supérieures à Kiev parce qu'elle voulait devenir chanteuse, elle est devenue chanteuse. Et donc, il fallait absolument aller dans une capitale. Et ça arrangeait bien ma mère aussi, vu qu'elle a plus de perspectives pour elle, en tant que médecin qui voulait devenir esthéticienne, qui se réorientait un peu. Donc, finalement, on a pris un choix qui était un peu dur et qui m'a fait beaucoup de déplacements, beaucoup de changements d'endroits, des contextes, des écoles, des tout. Mon enfance. Toujours. Donc pourquoi les favelas ukrainiens? Parce que je suis née à Moldavanka. C'est un sacré quartier de bandits à l'époque. Bon, dans le 20e siècle, mais quand même, il y a une petite réputation qui reste. Donc, nous, on a grandi un petit peu dans la précarité en vue de dissolution de l'URSS. Tout le monde essayait de se démerder. Pardon pour les gros mots. On est dans le radio. Et donc, voilà, j'étais souvent laissée avec mes grands-parents, vu que dès le début, mes deux parents ont été très occupés. Ensuite, en plus, les divorces. Je m'en souviens que tous les soirs après les écoles, soit je restais à l'école jusqu'aux fermetures, presque, soit même carrément jusqu'aux fermetures, soit j'étais chez ma mamie. Et. Donc, voilà, c'était un petit peu dur, mais je pense que ça m'a permis d'être une personne telle que je suis. Il faut dire aussi que le déménagement à Kiev, il m'a carrément aidé à ouvrir l'esprit. Je pense que c'était un bon passage, qui était bien un challenge. Mais j'ai tellement de rencontres, tellement d'opportunités, tellement de niveaux d'ouverture d'esprit qui était apporté par ces déménagements dans une grosse, grosse ville, plein de gens qui viennent de nulle part, que là, je regrette aucunement, ni ma sœur, ni ma mère.
Voilà. Ok, et juste pour rebondir là-dessus, du coup, tu as beaucoup grandi avec tes grands-parents.
Oui, t'as, avec mes babouchka et dédouchka ukrainiens. Baboussia, baboussi. Dis aussi.
Ok. Est-ce que tu veux rajouter un truc ou pas?
Ah, je sais pas, je peux juste rajouter que j'aimais bien le bouillon au poulet, aux cuisses de poulet. Et j'aimais bien des placinta et des vertoutés ukrainiens. Un plat ou un dessert. C'est ce que tout le monde retient de mon enfance, en fait.
Donc, le 24 février 2022, la guerre en Ukraine, elle est déclenchée par l'invasion de la Russie. À ce moment-là, tu viens de commencer ta première année d'études supérieures aux Beaux-Arts à Kiev.
Oui.
Suite à cet événement, tu décides de tout quitter en Ukraine pour arriver en France avec ta sœur à 17 ans.
Oui.
Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce départ ? Je peux, ouais, à quel moment tu décides que ça devient trop et qu'il faut que tu t'en, il faut que tu t'en ailles de l'Ukraine ?
Bah, en fait, donc 2021, je suis une personne très politisée, très engagée dans la vie activiste, en art. J'ai visité des cours d'art dans notre école depuis mes 16 ans. Et je crois déjà à 15 ans, j'ai commencé des cours avec des professeurs en privé.
En 2021, t'es au lycée du coup ?
J'étais au lycée, je suis sortie de lycée en juin 2021.
Mm-hmm.
Ok. Ouais. Juin 2022. Ouais, c'était déjà la guerre. Et bref, moi j'avais un petit ressentiment par rapport au fait qu'en 2014, j'étais pas assez au courant des choses, mais parce que j'étais gamine. Vous voyez ma tête sur la carte de l'école, j'étais vraiment une petite pucelle. Qu'est-ce qui est lancé, quoi. Et donc, moi et beaucoup de personnes de mon génération, je pense, ils ont été très politisés à ce moment-là parce qu'ils avaient un peu de regret de ne pas être au courant avant, pas assez, bref. Et donc, moi j'avais mon copain qui était un peu plus grand que moi, donc il faisait déjà la licence de sciences politiques à Kiev, dans l'université de Taras Shevchenko, c'est une bonne université et tout. Donc moi j'étais restée vraiment beaucoup dans l'actualité des choses qui se passaient, et moi je voulais absolument poursuivre en art. J'ai fait mon choix, mais de même côté, il y a beaucoup des actualités sur les études militaires sur le frontière de l'Ukraine. Et donc, t'es là en mode, tu viens de sortir de ton licence. Tu te dis, merde, là, en fait, je voulais être artiste. Et là, on a des prêtres russes qui vont envahir la pays, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Tu te remets complètement en question. Tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? T'es un peu déçu, dégoûté.
T'arrivais pas à pouvoir te dire que t'allais avoir un avenir dans ce pays avec ce qui est en train d'arriver.
T'es pas dégoûté seulement pour la situation en globalité, mais t'es aussi dégoûté pour ton propre avenir, pour ton propre projet. Donc, en fait, je pense que beaucoup des Ukrainiens, vu qu'on est très têtu, on est très... je pense qu'on est nationaliste, mais c'est un autre sujet de discussion. Beaucoup des personnes en Ukraine sont nationalistes, pour moi, dans assez bon sens, genre pas exagéré. Et je pense que le nationalisme ukrainien, il n'est pas le même qu'ici en France, par exemple. Là, c'est vraiment une obligation, vu qu'on était oppressé par le colonialisme russe depuis des siècles, genre. Et donc, nous, on a trouvé, en raison encore pour rester en Ukraine, on s'est dit que même si on reste artiste pendant la guerre, la culture était toujours important, même en temps de guerre. Et donc nous, on décide de rester dans le pays. Et justement, tant mieux même, parce que la culture, c'était tout le temps un dispositif pour ouvrir, pour en parler, pour donner les voix aux personnes, aux situations, etc. Donc moi, je trouvais que c'est même... genre, ça me renforce, le fait que je reste en Ukraine et que je sois artiste. Donc non, j'étais dégoûtée. Toujours, j'étais dégoûtée, mais je n'ai pas regretté quand même. Je voulais rester. Je voulais même me mobiliser et aller dans une armée. Voilà.
Tu veux dire, donc, la guerre, elle a commencé à la fin de ton lycée.
Oui.
Tu as commencé ta première année d'études sup...
automne.
Oui, voilà, toujours pendant la guerre. Et toi, à ce moment-là, tu te dis que tu as envie de rentrer dans l'armée ukrainienne, quoi.
Oui, de février 2022. Même à janvier, quand on avait encore les news sur les études, je me disais, si ça déclenche, moi, je veux bien être au moins volontaire. Et donc, ça a déclenché. Moi, comme en Lozère, j'étais dans un village avec ma famille. Bon, bref, j'exagère, pas en Lozère. Ils voulaient que je sois en sécurité. Mais du coup, mon projet de m'engager quelque part n'était pas abouti. Donc, j'étais juste dans ma chambre en train de donner tous mes derniers sous de poche que ma mère a donné aux forces ukrainiennes. Donc voilà, c'est tout mon engagement que j'ai fait, d'ailleurs, franchement. Et donc, voilà. Études en automne 2022, je commençais. Franchement, jusqu'au fin de l'automne, jusqu'aux les bombardements de stations électriques, etc. J'étais vraiment persuadée que je resterais en Ukraine. C'était vraiment ma position. Et moi, quand il faut parler des positions... J'ai une position, c'est mon principe.
Elle est ferme, quoi.
Je suis ferme dans mes positions, quoi. Donc, c'était déjà discuté dans ma tête, c'était fini pour moi, et je savais que je reste. Juste, s'il faut développer pourquoi, j'ai commencé à réfléchir à partir, en fait. Comme vous savez, on a commencé de frapper les stations électriques. Comment ça s'appelle, je sais pas. En français, bon, bref. On n'avait pas d'électricité, ni de chauffage, si tu as le chauffage électrique chez toi, ni de plaques de cuisson, si ils sont électriques aussi, ni de l'eau chaude, parfois même, si tu as le chauffage de l'eau électrique aussi dans le bâtiment, ça serait impossible. Pas de réseau, dans le quartier entier, genre. Tu n'as pas de lumière, tu n'as rien, pendant des journées parfois, pendant 3-4 jours. Avec des petites pauses de 4-6 heures. T'as la lumière, c'est tout. Genre souvent dans le matin, dans la matinée, t'avais un peu d'électricité. Ensuite, toute la reste des journées, tu passes dans le noir. Je m'en souviens très bien quand tu sors de cours, des trucs comme ça, de chez toi, voir des amis. 18 heures, commence à faire noir parce qu'on est en automne. T'as vraiment... la noire, l'obscurité totale, partout dans les rues. Chez toi, pareil, t'es juste déposé comme un légume sur le lit. T'es en mode, qu'est-ce qu'on va faire quand il aura la lumière? Tu réfléchis déjà en avance. En fait, c'est une autre temporalité. Donc, c'était un peu pénible pour ceux qui faisaient des études d'art appliqué, tout ce qui nécessite, en fait, pas seulement écrire, mais aussi produire, par exemple.
Et parce que t'avais quand même un lieu où t'allais faire tes études, t'étudiais pas chez toi. Vous étiez quand même une promo qui étudie ensemble ou pas?
En fait, la complexité, c'est ce qu'on avait une bonne promo. On avait notre lieu, nos ateliers, dans Beaux-Arts. Et c'était comme ça jusqu'au octobre, justement, quand ça commençait à se fréquenter trop, des frappes sur les stations électriques. Donc, on n'avait pas d'électricité. Et en plus, notre recteur de l'école, c'était un trou de balle crampu. Son secrétaire a volé plein d'argent pour réparer des fenêtres, je sais pas quoi. Donc ils avaient pas d'argent pour faire le chauffage dans toute l'école entière, pour toutes les saisons hivernales.
Sauf qu'il fait super froid cette période en Ukraine.
Oui, il fait super froid. Et t'avais tellement les gens déter dans notre promo qu'on a, même moi, on allait quand même sans chauffage dans les ateliers parce qu'on pouvait pas bosser de chez nous. Mais après, on a lâché un peu l'affaire, j'avoue. Genre, on a quand même presque toute la promo qui restait moitié de temps quand même chez eux. Mais voilà, ça a devenu vraiment pénible pour produire des peintures, des dessins, etc. Quand normalement, tu bosses dans l'atelier, t'es pas trop à l'aise chez toi parfois. Là, t'es obligé, mais en plus, chez toi, en étant la lumière et tous les moyens d'existence confortables.
Ok. Et... Donc du coup, suite à ça, suite à la difficulté que ça t'apporte dans tes études et dans la confection de ton avenir, tu te dis, il faut que je m'en aille.
Oui.
Mais est-ce que c'est un sujet de discussion qui émerge d'abord tout seul chez toi, ou est-ce que c'est en parlant avec ta maman, ta sœur, ton beau-père, est-ce que c'est en parlant avec tes amis?
Je pense que c'était... plusieurs choses. je pense que premièrement, quand même, je n'étais pas si consciente de ça au début, enfin, dans le moment où je voulais partir, mais je pense que c'était surtout ma sœur qui voulait quitter l'Ukraine encore en hiver 2022. Donc moi, je n'étais pas du tout d'accord avec elle, même on s'embrouillait plusieurs fois du fait qu'elle veut partir comme ça et tout. Donc je suis d'accord, je pense qu'il faut laisser le choix aux gens, s'ils veulent partir, s'ils ne veulent pas, pour qu'il part et il n'a rien de honteux. Mais on n'était pas d'accord. Et là, quand je voulais partir, je me suis dit, tiens, Mariana, elle voulait partir aussi. Peut-être je lui propose, parce qu'elle ne s'est pas décidée de partir toute seule, la pauvre. S'il a toujours envie, on peut le faire. Et aussi, c'était le fait que, bien sûr, je connaissais beaucoup des Ukrainiens qui vont partir à l'étranger. Donc il faut dire que vraiment, je sais pas, pour ceux qui s'intéressent à comment ça se passe, pourquoi on se décide de partir comme ça, c'est différent pour tous. Il ne faut pas mettre tout le monde dans une case. En fait, tu as les gens qui partent parce que c'est vraiment pénible de vivre chez eux, avec des coupures, surtout avec le travail, leurs projets professionnels, etc. Le mien, par exemple, comme ma situation. Tu as les gens juste qui, par exemple, partent là-bas parce qu'ils ont leur famille en Europe, ils veulent rejoindre. Normal aussi. Tu as les gens qui voulaient jamais trop vivre en Ukraine. C'est un peu une minorité. Et du coup, là, c'était, pour eux, c'était un peu une...
C'était la bonne occasion pour partir.
Une bonne occasion pour partir. Ils disaient, j'ai envie de vivre en Europe, en fait, et je sais pas comment faire. Et là, bam, la guerre, tant mieux, je vais pouvoir partir. C'est dingue, mais... Tu as des situations comme ça aussi. Et tu as parfois les gens qui profitent un peu. Mais comme dans tous les pays, ce sera. Les gens qui se disent, tiens, on a des aides. Pourquoi pas partir? On va bien vivre en Europe, c'est mieux. Mais des côtés inverses, c'est les gens qui trouvent que l'Ukraine, c'est tellement génial. Ils sont être obligés de quitter l'Ukraine. Et ils font les nostalgies à l'Ukraine tout le temps. Moi, je fais partie de ces gens-là. Je trouve que l'Ukraine, c'est aussi génial que...
Ça te manque.
Vivre en France, ça me manque. C'est pas la même façon de vivre, mais je trouve qu'on est très bien là-bas, aussi bien qu'ici.
Et donc, en fait, t'es un peu partie aussi pour pouvoir suivre ta sœur.
Me suis dit, ouais, elle a envie de quitter la France, et en fait...
Quitter l'Ukraine
Quitter l'Ukraine.
T'inquiète.
S'il a toujours envie, je veux pas qu'il aille seul. Ma mère, elle voulait pas partir à l'époque, il était avec mon beau-père. Et il voulait rester parce que voilà, ça faisait pas longtemps qu'ils ont été en couple, ça faisait quelques années seulement. Du coup, elle voulait faire sa petite vita avec lui. Donc, il nous a dit, si vous voulez partir, allez-y, mais elle, dans sa tête, on allait retourner en Ukraine en plus, donc ça lui rassurait. Mais je l'ai bien rassuré que j'ai trouvé une famille d'accueil qui veulent bien nous accueillir pendant quelques mois, qu'on retournera dès qu'il n'y aura plus d'électricité en hiver 2023. Genre, on retournera. Donc elle était en mode, ok, je vais perdre mes filles pour une petite période de temps, mais tant mieux, ils ne seront pas sous les bombardements. En fait, elle se disait ça. Pour les gens qui se posent la question, mais comment un parent pouvait laisser ses filles partir comme as? Voilà. Ça lui rassurait un petit peu le fait qu'on sera plus les bombardements, plus en sécurité, plus mieux mentalement. Parce qu'il faut dire que quand elle bossait dans la ville, mais elle vivait dehors de la ville, elle vivait dans une campagne, dans une maison secondaire avec mon beau-père. Donc les jours, quand elle allait au travail... Et quand elle avait des coupures d'électricité, elle pouvait plus se rendre dans le village. Et donc elle devait rester avec nous dans un même appart à trois avec des coupures d'électricité. J'ai l'impression que c'était quand même un coup pour ton santé mentale. Genre, c'était un truc on vivait mal tous cette coupure d'électricité pendant plusieurs jours et genre là elle peut pas repartir dans sa maison. Nous on est dans l'appart dans la ville. Et genre là on dort les trois sur les lits et on n'est pas bien quoi. Et le lendemain elle doit repartir au travail le matin sans les affaires, des trucs comme ça. Okay. Avec très peu de choses.
Comment, vous, avec ta sœur, du coup, vous avez choisi le pays dans lequel vous vouliez vous expatrier? Enfin, comment vous avez fait, en fait?
Donc, pour nous, c'était évident qu'on sera dans un pays francophone, parce que ma sœur parlait parfaitement français quand on voulait partir, parce qu'elle a terminé une école francophone, bah, bilingue. T'as un programme où t'apprends anglais et français. Mm. Et quasiment tous les cours sont quand même en français, c'est vraiment la majorité des cours sont en français, quoi. Comme si t'allais dans ton école, mais ton école, il a vraiment une programmation, un système d'école française.
Ok.
C'était ça. Et du coup, elle a terminé son lycée avec un niveau B2, je pense, et elle a gardé.
Donc vous vous êtes dit un pays francophone, donc soit la France, soit la Suisse.
Oui.
Vous deux, c'était les deux pays.
On ne considérait pas autre pays. Mm. On voulait partir soit en France, soit en partie francophone de Suisse. On ne pensait pas des trucs en mode Malte ou Monaco. Ou. Je ne sais pas, ou Guadeloupe. Guadeloupe. On pourrait bien partir là-bas. Non, mais c'était assez proche. Je sais pas pourquoi on n'a pas pensé des Belgiques. Je crois que j'ai rien trouvé là-bas.
Parce que toi, évidemment, enfin, est-ce que, enfin, là, tu vas nous expliquer après, mais en fin de compte, t'as fait toute une recherche, t'as posté des annonces pour pouvoir trouver des familles d'accueil, t'as fait les recherches poussées pour savoir comment être accueilli dans ton futur pays.
Exactamente. Des recherches très poussées et très bancales. En mode, j'ai mon Telegram, c'est comme WhatsApp, mais Telegram, on utilise ça pour se texter en Ukraine. Rien d'illégal, faut dire. Et dans mes messages sauvegardés, j'ai lancé plein de publications, des annoncements de l'accueil des Ukrainiens que j'ai trouvé sur les sites différents, que ce soit en site exprès, que ce soit annoncements sur Facebook, que ce soit des chaînes Telegram, où t'as des Ukrainiens qui proposent des choses. Mais il fallait faire une tri de malade parce que tu te rends compte là que c'est pas, il faut pas être en souci non plus. Il s'agit de déménagement, déjà un gros événement dans ta vie. Il s'agit de vivre chez des autres personnes. Faut savoir chez qui tu vis, comment tu peux faire confiance à ces personnes-là et surtout comment se fier à une personne que tu rencontres que quand tu arrives chez eux directement. C'est assez bizarre.
Et une famille qui pouvait vous accueillir, toi et ta sœur, ensemble.
Oui. Deux personnes qui vivent chez une famille. C'est pas une personne qui vit chez une autre personne. C'est carrément une famille avec leur propre mentalité. On connaît pas du tout la mentalité française. Et deux personnes, Mariana et moi, qui sont un peu différentes aussi. Comme pour tous, imagine dans 20 ans, 30 ans, t'as ta famille. Si tu veux avoir ta propre famille, tu dois accueillir deux personnes. C'est quand même... Il faut accepter le fait que tu auras des personnes complètement différentes à toi, très possiblement, qui vont vivre avec toi et tu ne sais pas si tu peux les accueillir pendant un court terme ou long terme parce que les situations sont instables. Mm. Donc, quelque part, les familles d'accueil, ils se disent dans leur tête que ça se trouve, nous, on ne pourrait pas répartir. Donc eux, ils doivent penser en plus, est-ce qu'eux, ils nous laissent gérer ce problème et trouver où vivre ailleurs? Est-ce qu'ils disent qu'ils peuvent nous potentiellement garder plus? Là, c'est carrément un casse-tête aussi pour ceux qui accueillent, mais aussi bien pour nous, parce qu'on ne connaît pas les idées des gens.
Et donc, quand vous arrivez en France, vous restez quelques semaines à Paris, je crois, pour obtenir votre titre de séjour. Et est-ce que quand vous arrivez en France, vous saviez déjà que vous alliez être accueilli par une famille de Cholet ?
Oui.
Ok.
C'est un peu l'inverse, justement. On savait qu'on serait accueilli par la famille de Cholet, mais on ne savait pas qu'on devrait partir à Paris.
Le titre de séjour.
C'était pas pour le titre, je ne sais plus pourquoi c'était. C'était, je crois, parce qu'eux, ils partaient en vacances. Et en fait, ils nous ont prévenu, avant qu'on soit arrivé encore en France, je crois que c'était déjà discuté en fait, que nous, on devrait trouver où se loger à Paris ou autre part, peu importe où.
Le temps qu'ils soient
à la maison. Le temps qu'ils sont en vacances, parce que oui, ils ont prévu de faire des vacances, ça fait longtemps, ils voulaient voir leur famille, normal. Donc soit on arrive plus tard, soit on arrive avant, mais on trouve un logement à Paris. Donc nous, on s'est dit, il n'y a pas de souci si on arrive un peu avant. Et puis voilà, parce que nous, on a déjà réservé nos tickets et on ne savait pas qu'il part.
Ok. Et donc, vous arrivez à Paris, vous y restez quelques semaines, puis vous rejoignez votre famille d'accueil à Cholet.
Oui.
Ensemble.
Oui.
Est-ce que... Parce que évidemment, en fait, toi, quand t'as quitté l'Ukraine, il te restait encore des études sup à faire si t'en avais l'envie, puisque t'en avais commencé là-bas. Mm-hmm. Est-ce que tu commences à rechercher à ce moment-là, quand t'arrives à Cholet, ou est-ce que tu vas pouvoir poursuivre
Pour les études Bah, pour dire, côté études, je prévoyais sincèrement de rentrer en Ukraine. Le jour quand on m'a proposé de continuer en école française, je croyais pas trop que ça marchera et j'avais le ticket de Flixbus déjà presque à payer dans mon téléphone. J'étais en mode ouais, Lydie, on peut couper son prénom peut-être quand même. Là, j'ai mon ticket de Flixbus, j'ai dit je pars dans 2 semaines chez moi.
Tu pensais pas rentrer, enfin, tu pensais pas quitter ton pays pour aussi longtemps ?
Bah non, dans toutes les annonces, je répondais que non, on cherche pour 3 mois max. Gros max, déjà, pour accueillir 2 personnes pour 3 mois, c'est quand même beaucoup. Du coup, voilà. Moi, je voulais rentrer parce que je voulais pas faire les gens, je sais pas, nous avoir pendant longtemps. Je trouvais ça un peu gênant. Je trouvais que c'est cool, déjà, les services qu'ils font, mais moi, je dois quand même rester chez moi, quoi. Et du coup, ils ont été bien gentils pour me proposer de rester en France, faire les études ici, et bah, rester vivre chez eux tant que j'ai mes bourses, payer de mes bourses un petit peu pour eux. Et puis voilà, c'était bien gentil.
Parce que du coup, tu peux nous dire combien de temps t'es resté dans ta famille d'accueil ?
Ah oui, ça a duré bien presque 2 ans, mais...
Et bah, évidemment...
J'y arrivé en décembre 2022, donc 2023, 2024...
Bah, 3 ans, en fait. 2 ans et demi.
2 ans et demi, ouais. Parce que je suis partie en juillet
2025,
oui. Mmh. Il a du mal avec des calculs.
Donc, t'es restée 2 ans et demi dans cette famille.
Et oui.
Rien à voir avec les 3 mois que t'avais prévu de base.
Ouais, rien à voir. Et ouais, en fait, c'est parce qu'ils sont laissés en mode, vas-y. Elle, c'est une petite Ukrainienne qui est en galère. On a peur pour... En fait, je trouve ça un peu méchant même de réfléchir de cette manière. Comme si ma vie serait la merde si je repars en Ukraine. En fait, je voulais bien repartir en Ukraine. En fait, j'ai juste accepté et quand on m'a proposé de vivre en France. Mais je sais très bien que cette personne, dans sa tête, elle se disait, pauvre Ukrainienne... Peut-être que c'était juste parce qu'elle avait peur pour que je risque ma vie. Et là, je suis complètement d'accord avec elle, mais je pense que aussi quelque part dans sa tête, elle lui en pensait un mode.
Ils ont un peu ce truc de sauveur ou.
Ah oui, c'est un truc de sauveur, c'est un truc en mode la France, elle est quand même un peu plus supérieure à l'Ukraine, machin. Donc, s'il reste en France, elle obtiendra la meilleure éducation, la meilleure possible, enfin les meilleures opportunités, tout ça. Comme si je serais moins bien chez moi.
Et. Parce que ça se passe comment, du coup, au sein de cette famille ? Du moment où vous arrivez et du moment où t'arrives à prendre un peu plus ton indépendance en France et à avoir ton propre logement ?
Il y a un gros écart entre les deux. Hein. Je pense que quand je suis arrivée, j'étais tout le temps meuf méfiante. Donc je ne savais pas quoi attendre d'eux et tout. Mais j'étais quand même quelque part un peu plus naïve aussi. Donc je me disais, waouh, c'est vraiment très gentil ce qu'ils font. Quand même, j'ai essayé de prendre le côté en mode. Ils font beaucoup de sacrifices. Ils sont très, 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 très gentils. Et donc, je disais jamais de non à ce qu'ils me proposaient. Et donc, il avait un petit truc. Quand même malsain, je pense, de cet rapport de sauveur, justement, et celles qui sont là pour se sauver, en fait. Mmh. Et après, on va voir qu'il avait beaucoup de menaces, en mode... On disait plein de choses méchantes, en fait, à moi, ma sœur et ma mère. Comme pour exemple...
La famille, vous disiez des choses méchantes.
Oui, à la fin, oui, évidemment. En mode, ma sœur qui va se coucher avec des mecs français pour je sais pas, juste pour se coucher et là, rien au niveau de rapports romantiques, des trucs comme ça. Mmh. Voilà. Pas obligé de dire ça. Et déjà pas obligé de creuser dans la vie personnelle. Ma mère qui a perdu mon beau-père, qui va se mettre en couple avec une personne française. Il avait des rapproches sur notre vie personnelle, sur notre façon de faire, qu'on n'est pas assez remerciante, des trucs comme ça.
Parce que
je voulais juste partir.
Tu nous expliquais aussi un peu que... en fin de compte, toi, quand tu arrives dans cette famille d'accueil, tu t'es effacée.
Mmh.
Enfin, même physiquement, tu as fini par te transformer, tu t'es perdue. En fait, tu t'étais un peu pliée à leur manière de te voir.
Oui.
T'étais plus vraiment toi-même.
Oui.
Mais sauf qu'à un moment donné, t'es redevenue plus toi-même. T'as réussi à...
Encore plus, je pense. C'est à force de se refermer. Mmh. T'as une intensité d'ouverture de toi-même qui est plus forte, encore plus forte après, une fois que t'as passé cette métamorphose bizarre. Mais oui, donc je sais pas, j'ai pris un peu cette mentalité de victime en mode je suis quand même un peu redevable à eux, et donc clairement parce que ils me faisaient tellement des choses pour lesquelles je savais pas comment réagir. Je sais pas comment vous, mais si un jour vous vous trouvez dans une famille qui vous offre des repas tous les jours, qui vous oblige pas de faire des nettoyages énormes dans toute la casa, qui vous donne des opportunités des études, qui vous renseigne pour tous les démarches administratives, qui vous aide à trouver le travail, des stages, machin, donc beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc toi, tu sais que c'est pas non plus que eux qui le proposent, c'est toi aussi qui montres l'intérêt pour vivre, pour développer dans le nouveau pays, mais c'est quand même eux qui contribuent vraiment à ta démarche personnelle. Et tu sais pas comment réagir là. En fait,
mais du coup tu te perds un peu parce que tu te sens redevable
quelque part,
tu veux pas faire de vagues parce qu'il t'apporte plein d'autres choses.
Oui. Et donc, tu es là, tu fais que profiter, tu vois. Je sais pas, tu profites des nouvelles rencontres, tu prends la mentalité des gens qui t'entourent, des nouvelles personnes. On t'amène voir des potes, des potes des familles, voir des familles, leurs traditions. Tu peux plus retourner en Ukraine pour l'instant parce que... quelque part tu peux, mais ta famille, ils veulent pas trop que tu retournes, ils te disent que c'est pas trop sécur là, il faut rester en France, donc tu restes en France, mais tu vois plus ta famille, ton père, t'es déraciné, donc tu cherches une forme de validation et tu commences sans te rendre compte, prendre des nouveaux codes culturels, la façon de se comporter, la façon de s'habiller, la façon de parler, les préférences, tout. En fait, tu refais ta personnalité un peu.
T'avais envie de pouvoir te fondre un peu dans la masse.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, t'es perdu. Quand t'es perdu, t'as envie de trouver tes repères. Donc, si tu veux prendre tes repères, t'es obligé de les prendre de ton entourage. C'est normal. Sauf que quand t'as pas d'entourage... qui est choisi par ta volonté. Enfin, si, c'était toujours mon choix, c'était ma volonté, mais c'était le mieux de ce que je pouvais choisir.
Mm.
Tu te dis, c'est mieux que rien. Donc, t'y vas quand même. T'acceptes, t'es remerciant à ces personnes. Tu passes, mais t'as l'impression que tu vis un peu la vie d'animal domestique, quoi. Tu vis la vie d'autres personnes, peut-être. T'es là, mais t'es pas là. Et donc, tu commences à te poser des questions. C'est quoi le mieux? Rester achelé dans le bien avec cette famille ou prendre tes couilles finalement et partir vivre un mode un peu plus pauvre dans une autre ville avec ta propre indépendance ou même repartir en Ukraine. Et en fait, c'est la question qui te terrorise vraiment beaucoup parce que là, t'es vraiment bien et ça fait pas longtemps que tu as trouvé tes repères et déjà, tu te sens que c'est vraiment pas la forme d'existence qui te plaît quand même. Donc, tu traverses déjà un passage que tu as choisi, mais tu pouvais pas faire mieux. Mais là, tu dois changer encore parce que tu te rends compte que c'est même pas le meilleur. Mmh. En fait, il faudra encore faire un grand bouleversement dans ta tête, dans l'entournement, dans ton style de vie, et passer à l'autre chose parce que même là, ça va pas trop en fait.
En fait, t'avais une situation entre guillemets confortable parce que
oui.
T'avais un foyer, tu Exactement. Mangeais à ta faim et tu pouvais aller à l'école,
oui.
Mais t'étais plus toi.
Oui.
Donc il fallait changer un truc.
Oui.
Horizon, un mardi par mois sur le 103 FM de Radio Campus Angers.
Cet épisode d'Horizon est divisé en deux parties. Retrouvez la seconde partie le mois prochain.
Merci d'avoir écouté Horizon. Tu peux retrouver l'épisode sur le www.radiocampusangers.com ou sur les plateformes d'écoute. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.